Dominique Depen, merci d'être parmi nous, éducateur social de formation, chef de service éducatif et docteur en sociologie politique. Vous êtes formateur et responsable de projet, hein, sauf erreur, à Bucq-Ressources, dans les Yvelines, à Paris, je ne me trompe pas. Vous avez commis plusieurs ouvrages, Pédagogie et travail social pour un accompagnement émancipateur des individus et des groupes aux éditions ESF, Distance et proximité en travail social, les enjeux de la relation d'accompagnement, et entre autres Utopie et rencontre éthique en travail social, accompagnement et lien social. Je vous passe la parole pour 45 minutes, un top chrono.
Merci beaucoup. Merci de votre accueil et puis merci de l'accueil depuis 2 jours. Voilà. Alors, je me demandais comment j'allais raccourcir mon propos. Et puis en fait, passer après Roland Gori, c'est très bien, parce que comme ça, je vais pouvoir être encore plus radical. Et moi, ça va très bien m'arranger, ça va me permettre de raccourcir mon propos. Alors, je vais essayer de structurer en 3 petits quarts d'heure ce que je voudrais vous présenter ce matin. Je voudrais revenir sur la notion d'éthique à partir d'un penseur qui, pour moi, est celui qui, effectivement, a pensé cette question d'éthique d'une façon la plus intéressante, en tout cas pour moi, qui est Emmanuel Lévinas. Donc, je vais essayer d'aller très rapidement faire 10 minutes sur Emmanuel Lévinas. C'est pas très bien, mais je vais le faire comme ça. Puis ensuite, je vais faire, puisque Christophe l'a cité, un peu de lien avec la question de l'utopie, que j'ai essayé de relier un peu dans le dernier ouvrage, là, c'est-à-dire la question de l'éthique et de l'utopie de l'humain. Voilà. Et je consacrerai le dernier petit quart d'heure à une critique du technicisme. Finalement, je vais rejoindre et je vais m'inscrire dans un prolongement de ce que vient de dire Roland Gori. Ce que j'appelle le technicisme, pour faire très très vite, c'est cette idée effectivement de faire primer la technique sur l'humain et comment dans le travail social, ça a des conséquences qui me paraissent assez terrifiantes. Voilà. Alors, aujourd'hui, parler de liens humains, finalement, c'est presque passer pour un doux rêveur. Hein, je me souviens d'une conférence que j'ai faite il y a 2-3 ans à Saint-Étienne. Quelqu'un qui m'interpelle en me disant « Mais monsieur, vous êtes un révolutionnaire, puisque vous voulez remettre le lien humain au cœur du questionnement du travail social », ce qui est quand même assez hallucinant. Je me suis fait traiter d'utopiste, mais bien évidemment, chaque fois qu'on se fait traiter de doux rêveur et d'utopiste, les gens n'ont jamais lu une seule phrase, une seule page de Thomas More qui a inventé le terme de l'utopie. C'est pour ça que je pense qu'il faut revenir à ce terme-là et expliquer quels en sont les enjeux aujourd'hui dans notre société. Et bien sûr, je vais revenir sur la question du travail social. Puis j'étais très touché par la remarque d'un intervenant hier soir qui nous disait « Mais c'est où l'espoir ? C'est où l'espérance ?» Alors j'ai pensé à lui, hein, hier soir. Bon, j'ai pas fait que ça. On a été au restaurant avec Michel et Martine, Michel Hôtesse, etc. Je pensais à ça. Il y a quand même des gens qui ont écrit sur la question de l'utopie. Je pense bien sûr à Thomas More. Je vais lui rendre hommage puisque pour moi c'est la grande rencontre intellectuelle de ma vie. Et puis avant de ça, c'était un ami qui vient de disparaître, c'était Miguel Avensour, qui au-delà de la France, bien au-delà de la France, a été quand même l'un des grands penseurs de la question d'utopie et qui a été l'introducteur de la théorie critique, la première école de Francfort en France dans les années 70 quand même. Voilà. Donc, on se fait traiter d'utopiste comme si parler de lien humain, finalement, c'était un gros mot, c'était pas sérieux. Hein. Et moi, je me dis finalement, c'est peut-être parce que c'est dérangeant de parler du lien humain. Alors qu'est-ce qui dérange? On me dit, mais finalement, c'est parce que tu ne veux pas regarder la réalité en face. Alors moi, je propose qu'on regarde la réalité en face. J'ai dit, on va regarder le travail social d'aujourd'hui en face. Et qu'est-ce que je remarque? Eh bien, je remarque que pour être un soi-disant bon professionnel du travail social, eh bien, il faut se plier au diktat du technicisme ambiant, c'est-à-dire adapter ses valeurs néolibérales. Michel Hôtesse et Michel Chaulière hier en ont parlé, je n'ai pas besoin de revenir dessus, c'est-à-dire l'idéologie de la prestation de service, l'idéologie de la démarche qualité, la tyrannie du projet, la tyrannie de l'évaluation, s'y plier, faire non pas de l'accompagnement Alors je sais qu'hier, il y a eu une critique sur la notion d'accompagnement. Je pense qu'on se trompe à critiquer la notion d'accompagnement. C'est pour ça que je me permets de flinguer la notion de prise en charge. Et puis on devrait devenir comme ça des spécialistes de l'évaluation, des experts optimiseurs comme ça de la démarche qualité. Cette démarche qualité qui est une démarche qualité techniciste, dont le premier paradoxe, c'est finalement pour faire de la qualité liquider l'humain. Ce qui est quand même assez incroyable. Et on marche là-dedans. Alors, l'utopiste, ce n'est pas celui qui s'illusionne. L'utopiste, c'est celui qui, justement, combat la notion d'illusion. L'utopie et l'illusion, ça n'a rien à voir, ça s'oppose. Une utopie, je vais y revenir un petit peu tout à l'heure, c'est ce qui s'oppose à une topie, c'est-à-dire à un ordre dominant. Donc ça n'a absolument rien à voir. Et pour dire les choses très simplement, je reprendrai une phrase de Miguel, la bête sourde, une société sans utopie, c'est exactement ce qu'on appelle une société totalitaire. Alors ça, c'est quand même problématique. Une démocratie où il n'y a plus de controverses, une démocratie où il n'y a que du consensus, ben ça ne s'appelle plus une démocratie. Parce que la démocratie, ça repose sur le dissensus. C'est-à-dire la possibilité que le conflit s'exprime. Et le problème en France, si je prends juste la France, mais en Suisse et ailleurs, ce n'est pas qu'il y ait des émeutes. Le problème, c'est que le jour où il n'y aura même plus d'émeutes. C'est-à-dire que les forces d'opposition seront complètement absorbées par le système. C'est d'ailleurs le principe, je fais une petite digression, c'est le principe du mouvement. Hein. En France, je ne vais pas faire politique-politicarde, hein, mais il y a un mouvement qui s'est mis en place, là, le macronisme, je ne sais pas trop ce que c'est, mais bon, voilà. Et le principe du mouvement, c'est que ça absorbe tout. Il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite. Il y en a qui ont dit que Macron était de l'extrême-centre. Alors, je ne sais pas trop où c'est, où il est le centre, mais il est à l'extrême-centre. Je ne sais pas trop. Bon. Et bien, un travail social sans utopie, je pense que c'est un travail social à tendance autoritaire. Qu'est-ce qu'on nous demande ? On nous demande de nous adapter. Alors, si on nous demande de nous adapter, il faut réfléchir. Alors, vous avez raison, vous parliez des intellectuels, etc. Moi, je ne me considère pas comme un intellectuel. Hein, j'ai un parcours universitaire, mais j'ai été 20 ans travailleur social. Donc, je n'ai pas tout vu en 20 ans, mais j'ai quand même des choses un peu en tête. Et aujourd'hui, en tant que formateur depuis 9 ans, je visite une cinquantaine d'établissements par an. Je suis responsable de quelques-uns des étudiants de Bucresources. Ça m'amène à être très au contact du terrain, vous voyez. Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est de continuer à réfléchir, si je peux, j'essaye, mais d'articuler avec les choses du terrain, très concrètement. Vous voyez, parce que faire une critique pour une critique, vous avez raison, c'est pas tout à fait intéressant, d'accord ? Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? Je vous jure que ça me fait peur. Je fais des entretiens d'admission en école d'éducateurs, spécialisés notamment. Ils ont déjà intégré, ingurgité toute la grammaire de ce qui devait sortir comme mot. Management. Démarche qualité, etc., etc. C'est terrifiant, parce qu'en fait, cette grammaire, pour rejoindre ce que disait Roland Gori tout à l'heure, c'est ce qui écrase les espaces de pensée. On écrase les espaces de pensée. Alors, je vais faire une référence commune que vous avez pris, Roland, qui est Hannah Arendt, bien évidemment. Hein. Aujourd'hui, on ne demande plus aux hommes d'être des êtres pensants. On demande aux hommes d'être des faiseurs d'actes. Et Hannah Arendt dit, c'est dans le procès sur Eichmann, je ne vais pas revenir trop longtemps là-dessus, un homme est un homme si c'est un homme d'action, un faiseur d'actes et un diseur de parole. Celui qui n'est plus un diseur de parole, ce n'est plus un homme de parole. C'est un être de bruit, et un être de bruit s'appelle un animal qu'on n'a plus qu'à dresser. Donc dans les institutions, quand on n'est plus capable d'accueillir la parole, c'est-à-dire le désir, hein, la parole c'est au sens large, celui qui ne parle pas est un être de parole, bien évidemment. Quand une institution n'est plus capable d'accueillir la parole de l'autre, c'est déjà une institution autoritaire, voire totalisante. Alors on devient les petits acteurs de ça. L'adaptation, il faut réfléchir à ce concept d'adaptation. Je prends une référence, Théodore Adorno, 1966, « Face à l'universalité des mécanismes d'adaptation d'aujourd'hui, ce sont probablement les pensées qui ne se soumettent pas à ces mécanismes qui sont les plus progressistes. » Le chemin du progrès qui passe par l'adaptation est régressif, il mène à la débilité mentale. Alors, je pense que le problème du travail social, c'est qu'il ne pense plus. On ne pense plus. On exécute. On est mis comme ça dans des circuits, dans des dispositifs, et on est tout à l'heure, on ne pense plus, on écrase les espaces de pensée. Et qu'est-ce que c'est qu'on nous empêche d'abord de penser ? Eh bien, la relation humaine. La question de l'éthique chez Lévinas, c'est la relation humaine. C'est pour ça que je vais revenir 10 minutes sur la question de l'éthique. C'est fondamental. Si on oublie ça, il faut changer de métier. Il n'y a plus à... Mais je fais ça quand je vais faire une conférence pour l'éducation nationale. Parce qu'un prof, c'est quelqu'un qui accompagne. Un infirmier, un médecin, c'est quelqu'un qui accompagne. Un formateur, j'accompagne. Quand j'étais chef de service, j'accompagnais aussi les salariés. Donc la question d'accompagnement, ça n'a rien à voir avec la notion de parcours dont on a fait la critique hier, et notamment Michel Hottès le faisait, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Penser, c'est rompre. Penser, c'est rompre avec nos habitudes de pensée. Penser, c'est introduire de la césure, c'est-à-dire de l'altérité de pensée. Penser, c'est penser à contre-pente. Voilà. Et j'ai une référence à laquelle je tiens aussi, qui est celle de Jacques Rancière, qui dit, en reprenant l'expérience de Jacques Otto, qui était un célèbre pédagogue du XIXe siècle, Jacques Otto, c'est la pensée de l'émancipation intellectuelle, il dit « Les mauvais bergers n'égarent que les moutons. Nul n'est obligé d'être un mouton. » Alors, trois parties, l'éthique, je vais faire rapide, mais j'y tiens, l'utopie de l'humain et la critique du technicisme. Alors, rapidement, l'éthique, déjà une éthique professionnelle, ça n'existe pas. L'éthique de quelque chose, dit Lévinas, ça n'existe pas. Dès qu'on vous dit l'éthique du capitalisme, il n'y a rien de plus anti-éthique que le capitalisme. L'éthique du sport, il n'y a aucune éthique dans le sport. Aucune éthique dans le sport. C'est quand même rare que le Paris Saint-Germain, pour prendre le football, rentre sur le terrain en disant « j'espère que je vais prendre une tôle », etc. Non, ce qu'ils veulent faire, c'est essayer de gagner. À part contre Barcelone, bon, ça c'est le problème. Mais... C'est-à-dire l'autre, dans le sport, est toujours un adversaire. Or, dès que l'autre est un adversaire, c'est que l'autre est un danger. Si l'autre est un danger, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mettre à distance et m'en protéger. Il n'y a aucune relation dans la distance. Donc, dès qu'il y a de l'adversité, dès que l'autre est compris comme un danger, il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus de relation, il n'y a plus de relation humaine. Donc ça, c'est quand même très important. D'ailleurs, pourquoi il n'y a pas d'éthique professionnelle? Parce que sinon, on n'aurait pas créé le terme de déontologie, tout simplement. Donc la morale et la déontologie, ça n'a rien à voir avec l'éthique. Alors, je vais faire très court, il faudrait le faire un peu plus, mais la morale, finalement, c'est un ensemble de normes, de règles, de valeurs. Alors, il faudrait peut-être différencier les termes avec Michel, notamment, mais un ensemble de normes, de règles et de valeurs qui s'imposent de l'extérieur à l'individu. Donc, toute morale est quelque chose qui est de l'ordre du normatif, du prescriptif. Je l'écris en deux mots, mais vous allez l'écrire en un mot. La morale, c'est ce qui va nous rendre conformes, qui veut la conformité. Or, la conformité, c'est quoi? C'est l'annulation de l'altérité. Donc, la morale, c'est ce qui veut de l'un, avec un grand U. Tous un, avec un grand U, UN. Et bien, le tous un, avec un grand U, N, et bien, c'est exactement le totalitarisme. Alors que la démocratie, c'est tous un, petit U, avec un S. Petit U, parce que c'est la singularité, et petit S, parce que c'est la pluralité. Et là où il n'y a plus de pluralité, grand concept de Hannah Arendt, il n'y a plus de démocratie. Il n'y a plus d'agir collectif. Et d'ailleurs, le management, parce que vous en parliez, je ne vais pas en faire un tour, le management, c'est quoi? Mais c'est la segmentation des personnes, c'est-à-dire l'atomisation des personnes, c'est-à-dire l'attaque en règle de tout agir collectif. Le directeur de la revue Lien Social, Michel a participé à la conférence, donc il est très au courant, m'avait demandé ce que je pensais du management, et de faire un petit article, et je lui ai proposé le management, deux points, le singe moderne du taylorisme d'antan. J'ai pas besoin de revenir, Roland Gori vient d'expliquer, je reste sur ça. La déontologie, c'est quoi? Finalement, c'est une petite morale, donc même logique, qui s'applique en fait à un champ d'activité en particulier, déonce, les devoirs, logique, logos, la science, la valeur suprême du devoir. Voilà. Même logique, prescription, ça n'a rien à voir avec l'éthique. Quoi. Donc l'éthique, c'est quoi? L'éthique, c'est la question de l'altérité, c'est-à-dire la question de l'autre. Dès que vous pensez la question d'éthique, vous pensez la question d'altérité. Donc je vais m'appuyer sur Emmanuel Lévinas. On pourrait revenir, je sais, par exemple, avec Paul Ricoeur, même s'il y avait des nuances entre Lévinas et Ricoeur, même s'ils étaient très amis. Mais penser la question d'éthique, c'est penser la question d'altérité. C'est-à-dire, pour faire court, il n'y a éthique qu'à partir du moment où il y a respect, reconnaissance inconditionnelle de la singularité, de l'altérité d'autrui. Alors, respect et reconnaissance, pas connaissance. Parce que là où il y a connaissance, il y a savoir. Là où il y a savoir, il y a chosification. Donc c'est la reconnaissance. et respect inconditionnel. Ça ne se discute pas. On n'est pas moins humain au Moyen-Âge ou au fin fond d'Afrique qu'en Occident aujourd'hui. Parce que si la condition de respectabilité de l'élément d'humanité de l'autre est liée à un contexte culturel ou temporel ou social, etc., alors ça veut dire que dans certains contextes et dans certaines sociétés, on serait moins humain que dans d'autres. C'est pas possible. Alors, à partir de où Lévinas pense ça, mais à partir de où Arendt, d'une certaine façon, pense ça, à partir de ce qui s'est passé dans les camps de concentration, bien évidemment. C'est-à-dire, pour Lévinas, pour Arendt, pour Adorno, certainement pour nous aussi, qui réfléchissons aux logiques de réification et de chosification, ce qui s'est passé à ce moment-là, sous cet aspect de la chosification de l'homme, ça n'était jamais arrivé avant. Il s'est passé quelque chose en 39-45, notamment dans les camps de concentration d'extermination, qui est que, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a transformé l'humain en matériau. Et que ça, Lévinas dit, mais Arendt dit, bien sûr, d'autres, Miguel Amensur, d'autres le disent, ça, on n'a pas le droit de ne pas en tenir compte. Donc la question que j'ai, moi, aujourd'hui, pour le travail social, c'est quelles sont les formes modernes de cette chosification qui a eu lieu, comment elle s'est infiltrée dans notre vie moderne et comment elle s'infiltre dans le travail social aujourd'hui. Donc, l'éthique, c'est le questionnement, la question de l'autre. L'autre, c'est qui ? Ben, c'est autrui. Lévinas dit, autrui, c'est l'absolument autre. L'autre, celui que vous accompagnez, c'est l'absolument autre. Et qu'est-ce que c'est qu'un absolument autre ? Ben, c'est qu'il n'est pas moi. Donc l'autre, c'est le non-moi, c'est celui qui n'est pas moi. Or, si je veux le posséder, qu'est-ce que je veux en faire ? Ben, si je veux le posséder, je veux qu'il soit même que moi, mon rallongement de moi-même. C'est une logique déjà de maltraitance. Donc l'autre, c'est le non-moi. L'éthique, ça commence par la reconnaissance, j'ai dit, pas par la connaissance. Donc vous voyez bien que ça pose la question de notre rapport au savoir. Parce que finalement, le savoir, ça sert à quoi ? Un chercheur, ça fait quoi ? Ça cherche toute sa vie, des fois ça trouve. Mais sinon, je vais prendre cet objet-là de recherche, je vais passer toute ma vie à édifier du savoir pour faire quoi ? Pour faire en fait disparaître le mystère de mon objet. Ma conviction, ça va être ça. Voilà. Donc je vais mettre toute ma puissance de savoir pour diminuer ce mystère. La grande différence entre un objet et un homme, c'est qu'un homme, c'est un mystère qui m'échappera toujours. Et tant que je ne suis pas capable d'accepter que la dignité de l'homme est d'être un mystère qui m'échappe, alors je serai dans une logique de maltraitance. Ceux que vous accompagnez, ce sont des hommes, des femmes, ce sont des êtres humains. Et si vous n'acceptez pas cette séparation radicale qui fait que l'humain m'échappe toujours, et c'est à partir de là que je peux avoir une relation éthique, alors vous serez en train de chosifier, donc de le maltraiter. Donc qui c'est cet autre ? Ben c'est un unique, c'est un incomparable. Il est non réductible à un dossier, il n'est pas réductible à un numéro, il n'est pas réductible à un symptôme. Je dis aux étudiants, alors peut-être que Roland Gori ne sera pas d'accord avec moi, mais on pourra en discuter, mais je dis aux étudiants, un autiste, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas réduire une personne à son symptôme, ce n'est pas possible. C'est comme si je vous réduisais, vous, là, aujourd'hui, à être des auditeurs à Lausanne. Mais vous êtes bien d'autres choses et qui nous échappent, et heureusement pour vous, d'accord ? Parce que si je commence à le réduire, eh bien, je vais le prendre en charge. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette logique de la prise en charge ? Ben, je vais y venir tout à l'heure. Il y a une logique de possession. Or, un homme ne se possède jamais. Donc, logique de prise en charge est une logique de chosification. Je vais défendre la logique de l'accompagnement. Autre grande marotte du travail social actuellement, la mise à distance. Il n'y a aucune relation possible dans la mise à distance. D'ailleurs, très honnêtement, celui qui vous dit « mets-toi à distance », vous lui répondez quoi ? Alors en général, les gens ne répondent pas. Mais la vraie question, ben, ça serait de leur dire ben, « c'est où ?» C'est une réponse complètement débile, en fait. Est-ce que je suis bien là ? Je suis mieux, sachant que je peux être en fusion avec quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Donc la relation humaine, ce n'est pas une histoire de compas, ce n'est pas une histoire de règles, ce n'est pas une histoire géométrique, ce n'est pas une histoire géographique. On peut très bien habiter dans la même rue que ses parents et pas du tout être dans un état situationnel, fusionnel, il n'y a pas de problème. Donc pas de relation éthique dans la prise en charge, pas de relation dans la distance, pas de relation dans la fusion. Je vais aller jusqu'au bout, comme ça je vais être radical. Une relation fusionnelle, ça n'existe pas, c'est une absurdité, c'est une impossibilité. On ne peut pas être dans une relation et non fusion. La relation... c'est ce qui nécessite la distinction, et l'idée même de fusion, c'est l'indistinction. Donc on ne peut pas être dans une relation fusionnelle. Donc celui qui vous dit « mets-toi à distance », vous allez lui poser, admettons, la question « c'est où ?», il ne va pas avoir du mal à répondre, et là il va vous dire Alors mets-toi à bonne distance. Là, vous êtes vachement avancé. Vous ne savez toujours pas où c'est, mais par contre, vous êtes un mauvais. Et en fait, il vient de vous dire, maintenant, tu as besoin de moi pour te situer. Quoi. Donc ça, c'est très problématique aussi. Et on a ingurgité ça. Hein. Les étudiants qui rentrent, ils ne sont même pas encore en formation, ils me disaient, monsieur Depert, ne vous inquiétez pas, je serai à bonne distance. Je lui dis, bah, restez chez vous. Qu'est-ce que je me foute de l'éducateur qui reste à distance? Moi, j'ai besoin de gens qui veulent aller en relation avec les personnes pour les accompagner. Ça nécessite quoi? Ça nécessite de repenser la question de l'accueil de l'autre. Il faudrait repenser dans les institutions la manière d'accueillir. Ce que Lévinas, mais surtout Jacques Derrida, avait écrit dans l'hommage qu'il rendait à Lévinas quand il est décédé, dans un texte qui s'appelle « Adieu à Emmanuel Lévinas », que Derrida appelle la loi de l'hospitalité. La loi de l'hospitalité, c'est très intéressant parce qu'en fait, Derrida et donc Lévinas retournent la question de l'accueil. Un travailleur social, ce n'est jamais lui qui accueille la personne. Un travailleur social, c'est toujours celui qui est accueilli. Je vais résumer dans une phrase de Lévinas, « L'autre est un hôte. » H-O-T-E. On est dans une relation. Je suis un travailleur social et j'accompagne une personne. Je suis un moi, l'autre personne est un moi, c'est un moi distinct, un moi séparé, un moi unique, et même c'est un moi infini. La relation, finalement, comment elle sera entre deux mois infinis? Elle sera forcément infinie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller aux Bahamas, même à Lausanne, même à Paris, faire des beaux voyages. Le plus grand voyage sur cette terre s'appelle une relation humaine, puisqu'elle est infinie. Alors des fois, parce qu'on veut se donner un beau prétexte, on pense qu'on doit terminer notre histoire d'amour parce qu'on a fait le tour de la personne, en fait, du pipeau. Hein, c'est pour donner bonne conscience, on n'a jamais fait le tour d'une personne. Voilà. Donc on doit s'arracher à cette obsession que le moi veut persévérer dans son être, ce qu'on appelle l'être ontologique. C'est-à-dire se tourner vers l'autre qui est un unique, qui est un incomparable, qui est inassimilable, qui est surtout non identique. En France, on a un chanteur que j'adore, qui a écrit une très belle chanson magnifique, qui s'appelle Alter Ego, je ne sais pas si vous connaissez, Jean-Louis Aubert, voilà, mais c'est une catastrophe d'un point de vue éthique. L'alter ego, dès que vous avez trouvé votre alter, l'autre ego, c'est que vous avez trouvé l'autre comme vous-même. Donc en fait, vous voulez vous-même quoi, dans l'autre. Quoi. Donc c'est très égocentré tout ça. Quoi. L'alter ego, il n'y a rien de plus anti-éthique, ça va pas ça. C'est cette logique de l'identité. C'est-à-dire ce que Adorno nous apprend, c'est que toute logique identitaire est une logique autoritaire d'annulation d'altérité d'autrui. Derrière l'idée de l'identité, il y a cette idée de réduire l'autre à des traits, à des symptômes, à un numéro. Adorno disait, pour reprendre ce que vous disiez aussi tout à l'heure, Roland, à Auschwitz, ce ne sont pas des hommes qui sont morts, ce sont des exemplaires. Vous voyez ? Qu'est-ce que c'est qu'être unique ? Est-ce que ça suffit d'être unique ? Si vous faites 150 000... Moi, j'ai travaillé avant d'être travailleur social, j'étais sur le terrain pendant 20 ans. Mais avant, j'ai fait 5 ans d'usine, vous voyez, je faisais 150 000 pièces par jour. Hein. Si vous faites 150 000 pièces par jour, elles sont toutes uniques. Mais elles sont toutes semblables. Donc, être unique, ça ne suffit pas. Il faut être aussi pluriel, il faut être aussi autre. Il y a de l'altérité. Là où il n'y a plus d'altérité, il n'y a plus de relation éthique. Donc, l'autre, c'est ce mystère. Il faut que j'accepte que ce mystère m'échappe. C'est la dignité de l'homme, disait Karl Jaspers. Et si j'accepte pas cette évasion, si j'accepte pas que l'autre m'échappe, alors je vais faire quoi? Et c'est mon hypothèse. Je pense que le technicisme qu'on nous fourre dans la tête aujourd'hui répond, on va dire, pour faire très court, à deux hypothèses. La première, c'est la maîtrise de ce qui m'échappe, c'est-à-dire l'élément humain de l'homme, quoi. Voilà. Nous, les civilisés, soi-disant, on maîtrise la nature, hein, alors que les soi-disant primitifs ne maîtrisaient pas la nature, d'où l'animisme, etc., tous les discours mythico-religieux. Et nous, les civilisés, les occidentaux, on maîtriserait vachement bien la nature, mais la dernière chose qui nous échapperait, ça serait la nature humaine. Donc on va essayer de maîtriser la nature humaine, et puis faire rentrer tout ça dans des cases, etc., etc. Je ne vais pas reprendre tout le discours sur le taylorisme, puis sur le fordisme, mais on est en plein dedans aujourd'hui, quoi. Voilà. Il n'y a pas de rencontre sans le beau risque de la rencontre. Une rencontre où il n'y a pas le risque de la perdre, ce n'est plus une rencontre. Quoi. Ça s'appelait autrement. Enfin, quand on a pu la possibilité d'accueillir de l'imprévisible, de l'indétermination, c'est-à-dire de l'humain, c'est-à-dire de l'utopie de l'humain, alors c'est qu'on maîtrise déjà tout. Ça ne s'appelait plus de l'amour, ça doit s'appeler, je sais pas moi, une carrière conjugale, par exemple. Je ne sais pas, mais certainement pas de l'amour. Alors, bien sûr, ça pose la question du rapport aux techniques. à la technique, au progrès, au mythe du progrès. Roland Gori citait Benjamin. Il y a une phrase que j'aime bien, une comparaison de Benjamin. Hein, il dit, il y a deux manières de regarder une cathédrale. Où on regarde le côté esthétique, les gargouilles, les vitraux, machin. Où on pense à la sueur et au sang de ceux qui ont porté les pierres pour la construire. Et on ne voit pas tout à fait la même cathédrale, voyez-vous. En ce moment, il y a des gens qui construisent des stades au fin fond du désert pour que dans 10-15 ans, on soit tous devant notre télé en train de regarder les matchs de football. On faudra peut-être repenser à 150 ou 200 morts, je crois qu'on en est actuellement, qui auront construit ces stades-là. Je suis sûr qu'on ne regardera pas les matchs de foot de la même façon. Voilà. Alors, Lévinas, pour faire court, 1906-1995, pour moi, c'est le grand penseur de l'éthique. Parce qu'il va très très loin dans l'exigence. Déjà, il nous fait repenser la question de notre rapport au savoir. Il dit « Tout savoir est une mainmise sur l'autre. » Tout savoir est une mainmise. Donc, la rencontre éthique ne commence pas dans le savoir, dans la connaissance. Il dit « Il faut penser autrement que savoir. » Et la pensée, ça a un lien avec la question de la proximité avec l'autre. On ne peut penser que dans la proximité éthique avec l'autre. Donc, la rencontre ne commence pas dans le cogito, hein, je pense, donc je suis. Finalement, on est emmerdé avec ça aujourd'hui, avec Descartes. Hein. Je pense, donc je suis. Donc ça veut dire que si je ne pense pas, je ne suis pas. Alors qui c'est qui décide que je pense ? Dans ces cas, qui est-ce qui décide que je pense ? Parce que s'il y en a d'autres qui décident pour moi que je pense, ça veut dire que tant qu'ils n'ont pas décidé que je pense, je ne suis pas. Quoi. Parce que, mais Lévinas, il va renverser le cogito cartésien. Il ne dit pas « je pense, donc je suis », il dit « je suis, donc peut-être je serai un être pensant », on verra, mais au moins, mais il renverse le truc. C'est très intéressant, pourquoi ? Parce qu'en fait, il définit une modalité de relation à partir de laquelle il va pouvoir définir aussi une question politique. Parce que Lévinas, il ne faut pas le réduire à l'éthique. Lévinas, il faut le ramener à la question politique. Il y a une question politique derrière. Bien sûr, c'était un grand penseur aussi de la question de la démocratie. Alors je résume toute sa magique pensée, parce que c'est enfin, magique, sa grande pensée, par une phrase qui est celle-ci. L'humanité commence avec bonjour. C'est-à-dire avec l'accueil de l'autre dans sa singularité d'être incomparable. Et que si je ne suis plus capable d'accompagner des gens en les accueillant dans leur altérité et leur singularité d'être incomparable, alors il faut que je change de métier. Alors il dit, toute relation éthique est par nature désintéressée. Une relation qui est intéressée, c'est déjà une relation où vous inscrivez l'autre en dette. L'autre, il ne vous doit rien. C'est une relation asymétrique. Ça ne veut pas dire que c'est une relation de domination. Asymétrique, pourquoi ? Parce que l'autre est un être singulier, parce qu'il n'est pas moi, justement. Et c'est une relation non réciproque. C'est notamment la divergence avec Paul Ricoeur, parce que Paul Ricoeur disait qu'il fallait de la réciprocité. C'est toute l'histoire du don et du contre-don. Hein. D'ailleurs, la plupart des gens qui en parlent n'ont jamais lu Marcel Mauss sur cette histoire-là. Voilà. Mais le don et le contre-don, alors aujourd'hui, on nous parle du pouvoir d'agir. Là, j'étais dans une conférence où quelqu'un nous a fait tout un truc sur le pouvoir d'agir. Alors le pouvoir d'agir, si on réfléchit bien, c'est que quelqu'un, le travailleur social, va s'octroyer le pouvoir de la liberté d'agir de l'autre. Alors ça veut dire que s'il décide de ne pas lui donner la liberté d'agir, il n'agit plus, quoi. Donc ça, c'est pas possible non plus, quoi. C'est une mauvaise traduction de peut-être l'idée originelle de la question de l'empowerment, etc. Et à partir de là, Lévinas dit, il faut réfléchir à la nature du désir, pas d'un point de vue psychologue, moi je ne suis pas psycho, mais d'un point de vue plus de la philosophie éthique, politique. Et vous vous souvenez tous certainement de cette phrase de Sartre, il y a beaucoup de choses chez Sartre, bien sûr, mais l'enfer, c'est les autres. Alors pourquoi ? J'essaie de faire comprendre ça aux étudiants. Qu'est-ce qu'il veut dire ? L'enfer, c'est les autres. Un jour, une étudiante m'a dit « Mais ça veut dire quoi ? Par exemple, Dominique, pour la question de l'amour. » Je dis « Bah oui, c'est intéressant. Ça. Tiens, la question de l'amour, l'enfer, c'est les autres. » Je lui ai dit à l'étudiante « Ben, pourquoi tu l'aimes ?» Et elle me dit « Ben, je l'aime parce qu'il est beau. » Alors là, je lui dis « Mais il faut retrouver autre chose, quoi. » Parce qu'avec le temps, ça retombe, tout ça. Ça ne va pas te suffire, voyez-vous. L'enfer, c'est les autres, parce que l'autre est un être de liberté. Qu'est-ce qu'il peut faire si c'est un être de liberté ? Mais il peut dégager. Et puis en plus, c'est doublement l'enfer, c'est les autres. Pourquoi ? Parce que comme c'est un être de liberté, que je suis un être de liberté, eh ben, il va peut-être vouloir amputer ma liberté. Donc je vais essayer de le canaliser de façon à m'assurer ma liberté. L'enfer, c'est vraiment les autres. C'est-à-dire cette idée que, je ne résume pas Sartre à ça, bien évidemment, mais cette idée que le désir en Occident, et on va dire pour faire court depuis Platon, est toujours un désir placé sous le signe de la possession, de la victoire, de la conquête. D'ailleurs, l'Occident a un vrai problème, c'est qu'il ne supporte pas l'altérité. On voit bien, de toute façon, chaque fois qu'il y a eu une colonie, ça a été pour massacrer les gens. C'était à supprimer l'altérité. Il n'y a même plus d'Indiens, il n'y a même plus de vrais Américains en Amérique. Ben, ils les ont tous massacrés quand on est arrivé. Donc ça pose un vrai problème. Lévinas va renverser le truc. Il va dire le désir de possession de l'Occident doit être retourné. Ça ne peut être un désir de possession, ça doit être le désir de la rencontre. Désir de la rencontre inscrit dans un mouvement qui est le mouvement de la responsabilité pour autrui. C'est le deuxième concept. Hein, le premier, c'est la question de la relation, le face-à-face. Je suis dans un face-à-face éthique à partir du moment où je garantis toutes les conditions à l'autre de ne jamais perdre la face. Alors, peut-être, la rencontre aura lieu. Et la responsabilité pour, éthique, pour autrui, c'est quoi ? Ben, il dit, la responsabilité pour autrui, c'est pas ça qui pèse sur moi. De toute façon, humainement, je ne peux pas me dégager de cette responsabilité. La responsabilité pour autrui, c'est celle qui me singularise. Alors j'ai essayé de faire comprendre ça aussi aux étudiants, et puis m'est venue comme ça subitement l'idée de Robinson sur son île, quand est-ce qu'il devient un individu ? Et là il y a une étudiante super contente, on était dans l'enthousiasme, ça, elle trouve la solution, elle me dit « Dominique, c'est quand mercredi, elle avait deux jours d'avance, mais c'est quand mercredi arrive, et non c'est vendredi, mais c'était ça, c'était l'altérité, exactement. » C'est-à-dire quand l'autre arrive, celui qui vous accompagne, c'est celui qui vous singularise. C'est lui qui fait que vous êtes un travailleur social unique. Personne, humainement, éthiquement, ne peut répondre à votre place. Lévinas dit « Je suis celui qui trouve les ressources pour répondre à l'appel. » Parce qu'en fait, on vous a déjà fait une adresse. On vous a déjà fait cette adresse de, on va dire, pour faire court, la souffrance de l'autre, de sa condition d'humanité de l'autre. Alors c'est pour ça que je défends effectivement l'accompagnement. Accompagner, c'est aller de compagnie avec. Aller, c'est un mouvement, c'est une relation. De compagnie, ça ne veut pas dire que t'es mon pote. De compagnie avec, c'est cette idée que je te confirme, je te garantis de ne jamais porter atteinte à ton intégrité, ta dignité, ta singularité, avec, évidemment, c'est la question de l'altérité. Alors la prise en charge, en deux mots, parce qu'il ne me reste que 10 minutes, je voudrais faire technicisme 5 minutes, la prise en charge, faire très court pour le coup, hein, je vais faire 30 secondes, c'est une logique de possession, parce qu'il y a prise. Donc si je te possède, c'est que je te chosifie. Deuxième logique, si je te chosifie, je te dépossède de toi-même. Je te demande de ne plus être toi-même. D'ailleurs, aller à l'hôpital, on vous demande d'être patient. Hein, ça veut dire ce que ça veut dire, d'ailleurs, être patient. Vous n'avez qu'à aller aux urgences en France, en tous les cas, vous allez savoir ce que c'est d'être patient. Hein. Mais le patient, c'est quoi ? C'est celui qui n'a plus d'histoire. Il n'a pas d'histoire, il n'a pas de sensibilité. Il est anhistorique. On s'en fout de ton histoire. Tu es juste le support à l'acte que je vais faire. Et l'acte que je vais faire, c'est ce qui va me donner ma reconnaissance professionnelle. Troisième, c'est une équipe de charge pour moi. Et puisque Michel Hautesse et Michel Chauvière, Martine Crapon, Roland Gori connaissaient beaucoup mieux Robert Castel que moi, j'ai eu la chance de passer plusieurs journées avec lui à deux reprises. Et un jour, Robert Castel m'explique, je lui dis, mais Dominique, vous êtes en train de devenir fou. Je lui dis, pourquoi ? Mais il me dit, l'autre jour, j'étais dans un CHRS, j'étais avec un éducateur, une personne dite SDF. SD, ça suffit, hein. Il n'a pas de domicile, il peut même dire qu'il n'est pas fixe, on s'en fout, vous voyez, c'est administratif, ça encore. Enfin, il arrive, l'éducateur lui dit, au bout de 5 minutes, c'est quoi ton projet de vie ? Et Castel qui lui dit, mais, enfin grosso modo, j'y étais pas, mais c'est, il me dit, mais accueille-le d'abord, accueille-le, quoi. Qu'est-ce que c'est ton projet de vie ? J'ai assisté à quelque chose, 8 éducateurs spécialisés, diplômés, qui, 2 semaines après l'accueil d'un gamin de 8 ans qui a été incesté, dit au chef de service qui était un ami, qui me l'a rapporté, les 8 éducateurs m'ont dit, on ne peut pas le garder, il n'a pas de projet de vie. Le gamin venait de se faire violer 8 semaines avant. Enfin, c'est hallucinant quand on y pense, quoi. C'est hallucinant. Voilà. Alors, juste, je voudrais citer Lewis Mumford, parce qu'il avait écrit ce grand livre Technique et Civilisation, quand même. Hein, je trouve que c'est un livre qui essaye de faire comprendre comment la technique a des implications sur les subjectivités. Bien sûr, après, par exemple, Jacques Ellul, moi je suis aussi un lecteur de Jacques Ellul, très important. Lewis dit « L'horloge a été la première machine de la technique moderne, elle possède une perfection à laquelle toutes les autres machines aspirent. » machine, pour entendre management, pour entendre évaluation aujourd'hui, pour nous, etc. etc. Et qu'est-ce que j'ai fait dans ce dernier petit livre? Eh bien, je me suis servi d'Herbert Marcuse, qui pour moi est une référence importante, qui en 1941, c'est quand même pas tout à fait une période banale, a écrit un article sur la technique, justement se servant de Mumford. Et qu'est-ce qu'explique Marcuse dans cet article très important? Ce qu'il explique, c'est que pour que la technique se transforme en technicisme, il faut que des états d'esprit soient prêts à ça. C'est-à-dire qu'il faut transformer les états d'esprit pour qu'ils acceptent que la technique prime sur l'humain. Et je vais rendre hommage à Michel, tant pis pour toi Michel, mais dans le travail social, en tous les cas en France, on n'a quand même pas beaucoup de grands penseurs qui ont inventé des concepts. Et je rends vraiment hommage à Michel Chaubière, ici, avec le concept de chalandisation des esprits. Michel explique dans son bouquin « Trop de gestion toute sociale » comment... En fait, ce néolibéralisme techniciste, moi je l'appelle comme ça, s'empare des esprits, s'empare de nos esprits, et on marche là-dedans. Mais à tel point que même les centres de formation marchent là-dedans. Il y a des directeurs qui se sont retrouvés sur un quai de gare en disant « Mais tu vas où, toi ?»« Ah ben moi, je vais à un machin, là, je vais chercher un marché. »« Tu veux marcher de quoi ?»« Ben, c'est le marché de l'analyse des pratiques. Il y a un mec qui veut l'analyse des pratiques. »« Ah ben moi aussi, j'y vais. » Et puis l'autre, il dit « Ah ben moi aussi, j'y vais. » En fait, ils étaient en concurrence, c'est-à-dire que l'analyse des pratiques est devenue un produit. C'est-à-dire que j'appuie le bouquin sur un grand texte, pour moi le plus grand texte de la philosophie politique, qui est « Discours de la servitude volontaire » de Étienne de la Boétie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'esclaves sans tyran, mais il n'y a pas de tyran sans esclaves. Et nous, les travailleurs sociaux, et je vous mets dedans, on arrête de penser, on ne pense plus. On exécute, quoi. On exécute. Il n'y a pas de tyran sans esclaves. Alors le technicisme, en deux mots, c'est quoi? Eh bien, c'est cette idée de standardiser les individus, donc les pratiques, donc les pensées. On nous fait rentrer dans un dispositif. Je pense à ce que disait Giorgio Agamben sur le dispositif. C'est un ensemble de praxis, de savoirs, de mesures, d'institutions qui ont pour but de gouverner, de capter, de contrôler, d'orienter des comportements, des gestes et des pensées des hommes. On rentre dans le dispositif qui nous capture comme ça. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on devient? Un bon automate, un faiseur d'actes, dirait Anna Arendt, un simple exécutant. Mais nous, exécutants, travailleurs sociaux, on va demander aux autres, ceux dont on s'occupe, de rentrer dans nos cases. Pourquoi? Parce que s'ils ne rentrent pas dans nos cases, on va être des mauvais travailleurs sociaux. Et nous, on va être des bons travailleurs sociaux. Alors comme on va être des bons travailleurs sociaux, tout le monde rentre dans la case, quoi. Donc, cette phrase que j'ai écrit dans le bouquin, la relation entre les hommes sont désormais totalement médiatisées par la mécanisation. On en arrive à ce que Adorno appelait la froideur sociale, ce que Weber a appelé le désenchantement du monde. C'est-à-dire, on ne veut plus de gens avec une sensibilité individuelle. D'ailleurs, on dit aux étudiants souvent, mais fais taire ta sensibilité. Ben non. Charles Baudelaire disait, la sensibilité de l'homme, c'est son génie. Alors, je vous en prie, tuez pas le génie de l'homme. Alors, quelques exemples de cette mise à nu. Qu'est-ce qu'il veut, ce technicisme? Mais en fait, il veut que l'humain ne lui échappe plus. En fait, le technicisme dégrade la souffrance en catégorie de pensée. Voilà, t'es pas assez autiste. En France, on n'a pas le droit d'être trisomique et Alzheimer. Faut choisir, mon vieux. Ah, tu peux pas. Si t'es trisomique, t'es handicapé. Si t'es Alzheimer, t'es Alzheimer. Mais si t'es les deux, t'as pas de place. C'est quand même terrifiant, rendez-vous compte. C'est quand même terrifiant. Alors, Adorno, effectivement, sur qui je reviens, dit, en fait, finalement, le technicisme, c'est ce qui dégrade l'homme, c'est ce qui dégrade la souffrance en catégorie de pensée, pour faire rentrer dans ces cases, et sous le principe d'une logique qui est la logique de la ratio. Il faut tout rationaliser pour que plus rien n'échappe. Voilà. Le grand bluff, c'est le grand bluff de l'objectivité. Roland Gori en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas trop revenir dessus, mais c'est cette idée de tout rendre quantifiable et mesurable. Par là, qu'est-ce qu'on fait? Nous, travailleurs sociaux, on se dépersonnalise. Quand on se dépersonnalise, on se déresponsabilise. Quand on se déresponsabilise, on se déculpabilise. Mais c'est exactement ce qu'Anna Arendt explique dans les camps. Une fois qu'on a dépersonnalisé, ensuite on a déresponsabilisé, et ensuite on a déculpabilisé, alors tout est permis. On est passé du tout est possible à tout est permis. C'est terrifiant. Quelques exemples là-dessus, je fais très très court, mais moi aussi je tourne des pages. Hein. J'essaie de montrer comment le discours techniciste est un discours clos sur lui-même. Un discours clos sur lui-même, c'est un discours qui n'accepte pas d'altérité de pensée aussi. Je prends quelques exemples. L'histoire des bonnes pratiques. Vous allez me répondre très honnêtement, qui là dans la salle ne veut pas faire des bonnes pratiques? Vous voyez, personne. Vous savez, vous êtes déjà tous pris dedans. Parce que pour faire des bonnes pratiques, il faut qu'elles rentrent dans les référentiels. qui va être couronnée, bien sûr, par l'évaluation. Et je me réexplique là-dedans, mais Michel, vous l'avez très bien expliqué, je m'en suis largement inspiré, j'ai consacré un sous-chapitre, notamment au concept de chalandisation. Mais cette histoire des bonnes pratiques, c'est que, finalement, elle vous empêche d'avoir les autres pratiques. Elle vous empêche d'avoir de l'altérité de pensée et de pratique. Pourquoi ? Parce que pour être un bon professionnel, pour faire des bonnes pratiques, ces bonnes pratiques, elles doivent rentrer dans des référentiels qui sont déjà préétablis. Tout est déjà pensé pour vous. Oui, mais ça veut dire que Paulette et Polo, ben c'est les mêmes. Il faut faire les mêmes levées. Vous voyez, les pratiques sont les mêmes. Et là où il y a du même, logique de mêmeté, c'est qu'il n'y a plus d'altérité. Là où il y a du même, c'est que les autres sont devenus les choses du même. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de lien humain. Voilà. Donc, pratique, référentiel, évaluation, ben ça marche ensemble tout ça. Je prends la notion de contrat. Il me reste 2 minutes, je fais très très court. La logique du donnant-donnant dans la notion, on est loin de Rousseau et du contrat social, c'est mieux vous le dire, hein. C'est-à-dire que le contrat, c'est cette idée qu'au moment où la personne est le plus fragilisée, on va lui demander de rendre. C'est quand même hallucinant. La notion de projet, c'est l'équivalent finalement dans le travail social de ce que la monnaie est dans la sphère de l'économie. C'est-à-dire tout rendre mesurable, tout rendre quantifiable, le passé et le présent n'existent plus. Vous allez me dire, il reste le futur. Ah non, même pas. Non, non. Le futur, ça devient un temps programmable et rentable. Entre T1 et T2, tu as rempli tes objectifs, oui ou non? Oui, mais attends, moi, il faut que j'installe une relation de confiance. Non, pas le temps de faire une relation de confiance. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu as de 0 à 1 pour remplir tes objectifs. Donc, tyrannie du projet, tyrannie de l'évaluation. J'y reviens. Le territoire, qu'est-ce que c'est que autre chose qu'un quadrillage social, administratif, pour rendre l'espace du territoire rentable? C'est une logique néolibérale de rentabilité. La transversalité. Ben, la transversalité, c'est ce qui nivelle tout. Là où il y a de la pensée, c'est où il y a de l'inter. L'inter, c'est de l'entre, l'interdisciplinarité. Mais là où il y a du transversal, c'est qu'on est en train de tout niveler. On est en train de faire un discours 1, un discours clos. Le réseau, aujourd'hui, les gens n'ont qu'une obsession. Est-ce que j'ai ma place dans le réseau? Oui, mais tu as des compétences, on s'en fout, ça. C'est pas important. Moi, je veux ma place dans le réseau. Terrifiant. Terrifiant. L'évaluation, j'y reviens pas, je vous renvoie. La prestation de service. Et j'arrête là. La prestation de service, ben finalement, c'est quoi? On a une situation, on a un problème, on l'hypertrophie, on va le découper, on va le partager en produits, et on va distribuer ces produits à des prestataires. Quant au management, je reviens pas sur l'idée de la réification que je reprends chez Lukács, bien sûr, puis après, bien sûr, chez Marx. Lukács, c'est la réification. On pourrait dire la chosification, même si on peut faire la nuance. La réification, ça signifie qu'un rapport ou une relation entre des personnes prend le caractère d'une chose. Le management, c'est quoi? C'est cette idée qu'on file à un mec 10 personnes, en fait 10 citrons, et on lui dit, t'as de T1 à T2 pour presser tes citrons. Après, si les citrons sont encore en vie, tu les gardes. Ceux qui bougent encore, tu vois si tu peux les réanimer. Sinon, tu les dégages et t'en prends des autres. C'est ça. Le management, finalement, c'est une méthode de contrôle, de planification, d'organisation, de façon à segmenter le travail. C'est-à-dire, l'ouvrier dont parlait Roland tout à l'heure, l'ouvrier, avant, il avait un savoir-faire. Eh bien, le taylorisme et le fordisme, il a dit, mais ça, c'est vachement dangereux. Parce que si l'ouvrier, l'artisan, a un savoir-faire, savoir-être, etc., etc. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, ben, il a du pouvoir. Donc on va niveler tout ça, et puis surtout, on va segmenter tout ça. Aujourd'hui, dans les situations, vous en faites une petite part. Vous ne savez pas ce qui se passe avant, vous ne savez pas ce qui se passe après. C'est-à-dire que ça casse la possibilité de l'agir ensemble. Or, l'agir ensemble, ben, c'était une des conditions, ce qu'on appelait la pluralité, avec Anna Arendt, sur la question politique. Alors, je termine juste avec une citation de Miguel, qui terminait son livre « Le procès des maîtres rêveurs » de Miguel Abensur par rapport à l'utopie. Parce que l'utopie, ce n'est pas l'illusion. L'utopie, c'est le lieu de la vie. Une rencontre interhumaine est utopique. Une rencontre interhumaine est âne, plus loin, archique. Ça n'a rien à voir avec l'anarchisme. Âne, arché, arché la valeur. Vous ne rentrez en relation humaine que parce que vous n'avez pas des archés, c'est-à-dire des préjugés. Sinon, vous ne rencontrez pas l'autre, vous rencontrez celui que vous avez réduit. Hein. D'ailleurs, pour rencontrer quelqu'un, disait Lévinas, il ne faudrait même pas connaître la couleur de ses yeux, parce que dès que je connais la couleur de ses yeux, je vais le réduire à ça. Miguel dit, et je cite, « Si l'utopie est à ce point abominable, Alors, contre tous les petits maîtres d'hier et d'aujourd'hui, n'hésitons pas à dire et à redire « Vive les rêveurs !» Voilà, je vous remercie. Merci.